Vous écoutez, on lit pour vous.
Voyage et handicap. Oser, planifier et déjouer les clichés. Un texte de Zoé Magalès, paru le 31 mai 2023 dans le journal Métro. Le voyage évoque la détente, la découverte, l'aventure. Mais pour les personnes en situation de handicap, partir en vacances, voyager, voir du pays, demande aussi d'être sacrément organisé et prêt à relever plusieurs défis. À l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se déroule chaque année du 1er au 7 juin, Métro s'est intéressé à la question du tourisme accessible ainsi qu'au handicap invisible. À 31 ans, Elisabeth Lowe, qui est atteinte de paralysie cérébrale, un trouble chronique qui affecte son sens de l'orientation dans l'espace, ses mouvements et sa posture, est partie pour la première fois sans sa famille. Avec son amoureux, elle s'est rendue à Lamalbe pour un week-end à deux dans Charlevoix et elle le confirme. Voyager quand on a un handicap, ça ne s'improvise pas. Avant de partir, Elisabeth a notamment dû se renseigner sur le transport et s'assurer que la chambre adaptée réservée à l'hôtel Richelieu serait bien adaptée à ses besoins et à ceux de son amoureux, qui est atteint de spina bifida, une malformation de la colonne vertébrale, et qui se déplace en fauteuil roulant. C'est toute une logistique. On doit tout réserver à l'avance, penser aux moindres détails, raconte-t-elle. Donc, ça vient avec une certaine charge mentale, et c'est vrai que ça ne laisse pas beaucoup de place à la spontanéité. Au Québec depuis 40 ans, l'organisme Kiroul travaille à rendre le tourisme plus inclusif et accompagne les personnes en situation de handicap qui souhaitent partir en vacances ou profiter de loisirs près de chez elles. En plus de répertorier les lieux ainsi que les activités touristiques accessibles au Québec sur sa plateforme Le Québec pour tous, et de donner des conférences sur le sujet, l'organisme a aussi élaboré plusieurs guides pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap ayant soif de voyage. C'est clair que ça demande pas mal plus de planification. Je ne peux pas juste décider de m'en aller demain à Cuba dans un tout inclus. Il y a des enjeux supplémentaires dont il faut tenir compte. La première chose à faire, c'est donc de bien évaluer ses besoins, mentionne Isabelle Ducharme, présidente de l'organisme Kiroul. Par exemple, si une personne à mobilité réduite a besoin d'un lève-personne, pourra-t-elle en louer un sur place? Une personne ayant une déficience visuelle pourra-t-elle facilement se repérer dans l'aéroport dans un autre pays? Des taxis accessibles seront-ils disponibles à destination? Sortir de sa zone de confort. Évidemment, comme pour tout voyage, les choses ne se passent jamais exactement comme prévu. Il faut donc être prêt à faire face aux imprévus et à sortir de sa zone de confort, souligne Madame Ducharme. Elisabeth et son amoureux en ont d'ailleurs fait l'expérience. Lors de leur arrivée à Lamalbe, ils ont dû demander de l'aide pour se déplacer à cause de plusieurs obstacles sur leur chemin, une rampe trop raide notamment, et ont appris que le transport adapté n'était, en fait, pas offert les fins de semaine, et ce, même s'ils avaient bien fait leur réservation. Une situation qui les a obligés à faire appel à une compagnie de taxi privée. Outre ces complications logistiques, tous deux ont apprécié leur séjour à l'hôtel, où la chambre adaptée leur a permis de vivre un séjour vraiment confortable. « Je ne pourrais pas voyager seul. » Mais refaire un voyage avec mon copain au Québec, oui, ça pourrait se faire. On n'est pas prêt à partir en Grèce à dos d'âne, mettons. Mais on va y aller par petites bouchées. Et, par exemple, j'aimerais bien un jour aller en croisière aux îles de la Madeleine. Parfois, il faut oser, conclut-elle. Développer le tourisme accessible. Pour permettre aux personnes en situation de handicap de voyager davantage et plus facilement, Julie Montreuil, co-directrice du Carrefour familial des personnes handicapées, croit que le gouvernement doit être plus proactif. ça prend des politiques claires et précises. Ici, à Québec, il n'y a pas d'exigence dans la réglementation pour ce qui concerne l'accessibilité des terrasses et, tant qu'on ne mettra pas de pénalité, ça ne bougera pas, illustre-t-elle. Tout comme Kéroul, son organisme veut aussi changer la perception que la société peut avoir du handicap. C'est, selon elle, une des clés pour favoriser l'inclusion. Ça dérange d'y penser, mais on peut tous un jour être touchés par le handicap et ce n'est pas pour autant qu'on ne voudra plus profiter de la vie. On ne se sent pas concerné par les enjeux d'accessibilité jusqu'à temps que ça nous touche. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à faire, ajoute-t-elle. C'était « Voyage et handicap, oser, planifier et déjouer les clichés », un texte de Zoé Magalès, paru le 31 mai 2023 dans le journal Métro.
Le manque de fer est-il répandu? Un texte de Catherine Enfield, paru le 6 octobre 2024 dans La Presse. Avoir suffisamment de fer dans le sang, on le sait, c'est important. Mais à partir de quand le médecin devrait-il songer à des suppléments devant un patient fatigué, déprimé et anxieux? L'Ontario vient d'établir une nouvelle limite pour le fer, plus élevée que les seuils fixés au Québec et ailleurs au Canada. Explication. 30 microgrammes. Début septembre 2024, les médecins ontariens ont reçu un avis de Santé Ontario les informant d'un changement. Désormais, la limite inférieure de ferritine, la principale protéine de réserve du fer chez les adultes, passe à 30 microgrammes par litre de sang. Qu'est-ce que ça change concrètement? Dans les bilans sanguins, les résultats en deçà de 30 seront signalés comme étant anormaux, ce qui incitera les médecins à s'informer des symptômes de leurs patients et, si c'est approprié, à leur prescrire des suppléments de fer. Le bassin d'Ontariennes et d'Ontariens, susceptible de recevoir des résultats de ferritine considérés comme étant bas, augmente beaucoup. Plus de femmes. Pour comprendre cette nouvelle limite qui départage les résultats normaux des résultats bas, regardons les seuils qui étaient considérés en Ontario avant le 9 septembre et qui sont encore ceux des autres provinces canadiennes. Ces seuils minimaux sont hétérogènes. Ils varient d'un laboratoire à l'autre et d'une population à l'autre, mais pour les femmes canadiennes, on parle d'une limite inférieure de 10 à 15 microgrammes de ferritine environ. Il s'agit de valeurs de référence, basées sur les valeurs obtenues dans des populations en santé. Selon des chercheurs, ces seuils ne reflètent pas la réalité de la carence en fer, surtout chez les femmes. Équité. Nous sommes vraiment heureux de ce changement. Ça fait 4 ans et demi qu'on y travaille, se réjouit la docteure Michelle Schulzberg, hématologiste, directrice de l'hématologie à l'Université de Toronto et chercheuse à l'hôpital St. Michael's. Leader d'opinion dans ce mouvement de changement, la docteure Schulzberg est préoccupée par la santé des femmes et l'équité en hématologie, la spécialité médicale s'intéressant aux éléments constituant le sang. La carence en fer avec de l'anémie et la carence en fer sans anémie sont plus communes chez les femmes en âge de se reproduire, souligne la docteure Schulzberg. Pourquoi? Parce que les femmes n'arrivent pas à compenser dans l'alimentation la perte de fer causée par leurs règles. Problèmes associés. Ce n'est pas parce que c'est vraiment commun que c'est normal pour autant, estime la docteure Schulzberg. Le déficit en fer est associé à plusieurs conséquences comme la fatigue, les symptômes dépressifs ou anxieux, le syndrome des jambes sans repos, des difficultés sur le plan de l'attention. Lorsque le déficit en fer est suffisamment sévère, les gens développent de l'anémie, souligne-t-elle. Est-ce à dire que tous les bilans sanguins en deçà de 30 entraîneront une ordonnance de fer? Non. Ce sera du cas par cas. Le changement donne au moins l'occasion au médecin d'avoir une conversation avec ses patientes, notamment à propos des pertes menstruelles et des symptômes gastro-intestinaux, explique la docteure Schalsberg. Les médecins pourront aussi, selon les symptômes, considérer l'option des suppléments de fer. Preuve. Existe-t-il des études démontrant qu'une femme ayant une ferritine de 25, par exemple, sera moins fatiguée ou moins déprimée si elle prend du fer? La littérature scientifique à ce sujet n'est pas claire. L'été dernier, un groupe de travail américain, le U.S. Preventive Services Task Force, a d'ailleurs conclu à une insuffisance de preuves pour tester et traiter le taux de fer des femmes enceintes sans symptômes de carence. La docteure Schalsberg en convient. Oui, il y a des lacunes importantes dans la littérature, et cette réalité n'est pas étrangère, selon elle, au sexisme structurel en médecine. Mais il y a un très grand nombre de scientifiques et de médecins qui, comme moi, sont convaincus qu'il existe suffisamment de preuves considérant les risques associés à la carence en fer, dit-elle. Michelle Schalsberg espère que l'exemple ontarien aura une influence ailleurs au Canada et à l'échelle mondiale. Et au Québec. Président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec, le docteur Normand Blais trouve intéressant le mouvement en cours et il est ouvert à entendre les arguments de ses pairs. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elles disent. Une ferritine basse, sans anémie, ça mérite peut-être un traitement chez certaines personnes, dit le docteur Blais, qui voit aussi l'intérêt de sensibiliser les professionnels de la santé à cet effet. Mais il ne faudrait pas, selon lui, médicaliser une valeur de ferritine et traiter toute ferritine en bas de 30, même sans symptômes. Plus on lève la valeur de ferritine, plus on médicalise les femmes, rappelle-t-il. Les suppléments de fer peuvent causer des effets secondaires comme des brûlures d'estomac et de la constipation. Prudence au ministère de la Santé du Québec. Le Québec va-t-il emboîter le pas? Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, M3S, on indique que cette question ne relève pas directement du M3S, puisqu'il revient à chaque grappe de laboratoire de définir ses valeurs de référence. Le M3S rappelle aussi les conclusions récentes du groupe de travail américain sur le manque de données probantes chez les femmes enceintes. En 2015, un résultat semblable était observé pour les 6 à 24 mois. Aucun dépistage systématique, dosage de la ferritine sérique chez des personnes en bonne santé, ne présentant aucun symptôme, n'est donc recommandé, indique l'équipe des communications. En savoir plus, 38 %. En Ontario, 38 % des femmes de 15 à 54 ans qui ne sont pas enceintes ont un déficit en fer, moins de 30 ug par litre. Source: Kinwen et Halt, 2022. C'était « Le manque de fer est-il répandu ?», un texte de Catherine Enfield paru le 6 octobre 2024 dans La Presse.
Promesse brisée pour des résidents d'Iqaluit qui espéraient devenir propriétaires. Un texte de Radio-Canada avec les informations de Samuel Watt, paru le 18 septembre 2024 sur Ici Grand Nord. Une dizaine d'employés du gouvernement du Nunavut qui avaient entamé des procédures pour acheter une propriété à travers le programme territorial de copropriété ont été informés que ces logements n'étaient plus à vendre, même s'ils les occupaient depuis plusieurs années. Mosha Côte, un résident d'Iqaluit, employé du gouvernement du Nunavut, raconte qu'il a poussé un soupir de soulagement lorsqu'il a finalement signé l'accord de vente et d'achat de son appartement en copropriété en juillet 2023, soit près de 4 ans après y avoir emménagé. Ce sentiment s'est toutefois subitement dissipé quand, au mois d'avril 2024, la société d'habitation du Nunavut l'a informé que le logement n'était finalement plus à vendre et qu'il serait converti en appartement locatif du gouvernement territorial. Citation « Ça a vraiment été un coup de massue », fin de citation, affirme Moucha Côte. Sa famille et lui font partie des 11 ménages qui ont commencé à emménager dans les unités 4096 et 4096B de la rue Apoot Court à partir de décembre 2019, dans le cadre du programme de copropriété pour le personnel du gouvernement du Nunavut. Les occupants ont pris possession de leur appartement sans avoir préalablement signé de contrat, bien qu'on leur ait dit à plusieurs reprises qu'ils ne tarderaient pas à pouvoir le faire. Lancé en 2017, ce programme de la SHN promettait aux résidents l'achat de propriétés à des prix inférieurs à ceux du marché immobilier, dans le but de favoriser la rétention de personnel et d'aider les travailleurs à accéder à la propriété. Après avoir emménagé avec sa famille dans ce qu'ils croyaient être leur logement, Moucha Côte affirme avoir investi une somme considérable, notamment dans la réparation des conduits pour la ventilation. Il y a littéralement du sang, de la sueur et des larmes dans ce logement, affirme-t-il, précisant qu'il a dû jongler entre trois emplois pour parvenir à joindre les deux bouts. Or, au mois d'avril, la SHN a annoncé aux résidents que leur association de copropriétaires était dissoute et que les 36 appartements de la rue Apoot Court seraient transformés en logements locatifs pour les employés du gouvernement territorial. Le PDG de la SHN, Erin Devereaux, justifie notamment cette décision par le faible taux de participation au programme de copropriété pour le personnel et la pénurie de logements locatifs après la démolition d'un autre bâtiment utilisé comme logement pour le personnel. Plusieurs années de retard. Catherine Tardif est elle aussi au nombre des résidents qui ont emménagé en décembre 2019 dans un des appartements de la rue Apoot Court. Citation « J'étais vraiment emballée à l'idée d'avoir mon propre logement. » Fin de citation, se souvient-elle. Elle affirme que l'accès à une propriété était pour elle un gage d'indépendance car elle n'aurait plus à compter sur un logement fourni par son employeur. En janvier 2023, la SHN a communiqué avec elle pour lui demander si elle souhaitait toujours acheter l'appartement dans lequel elle était installée avec sa famille depuis plus de trois ans ou si elle souhaitait plutôt le louer. Sans nouvelles pendant plusieurs années, puis contrainte de prendre une décision dans un temps restreint, elle s'est finalement résolue à le louer à contre-cœur. Citation « J'ai senti qu'on me poussait à prendre une décision à la hâte », dit-elle. On m'a dit que si je ne signais pas le bail, je n'aurais plus de logement. » Fin de citation. À la tête de la SHN depuis 2022, Erin Devereaux associe notamment les retards des accords de vente et d'achat à la pandémie de COVID-19. Il affirme qu'il aurait souhaité que les choses se passent autrement. Selon lui, les résidents auraient dû signer un accord, comme un contrat d'occupation provisoire ou un contrat d'achat, dès la prise de possession de leur logement. Négligence imprudente et délibérée dénonce une plainte. Des documents de la firme comptable MNP, obtenus par CBC en vertu de la loi sur l'accès à l'information, montrent que l'association de copropriétaires se heurtait à de nombreux défis avant qu'elle ne soit dissoute au printemps. L'entreprise a été embauchée par le gouvernement du Nunavut pour enquêter sur une plainte déposée un an plus tôt pour négligence imprudente et délibérée de l'association de copropriétaires, connue sous le nom d'Iqaluit Condominium Corporation No. 17, ICC 17. Dans son analyse, la firme a constaté que la SHN ne suivait pas les activités financières de l'ICC 17 et qu'aucun compte bancaire spécifique ne lui était associé avant juillet 2022. L'ICC 17 a été constitué en mars 2020, soit environ quatre mois après l'arrivée des premiers résidents. Certains d'entre eux se faisaient facturer des frais de copropriété avant même que l'association ne soit formée. La firme n'a pas trouvé de preuve de violation du code d'éthique du gouvernement, mais elle a constaté que la SHN n'avait pas respecté plusieurs principes directeurs lorsqu'elle a promis aux résidents que les accords de vente et d'achat étaient imminents. De nombreux membres du personnel impliqués dans le programme de copropriété pour le personnel ont depuis quitté leurs fonctions. Erin Devereaux est quant à lui devenu le PDG de la SHN après le début de l'enquête de la firme MNP. Il admet qu'il n'est pas habituel de permettre à des résidents d'occuper un logement sans accord écrit, mais il assure que la SHN effectue désormais un suivi des activités financières. 11 appartements, toujours en vente à Iqaluit. Les 36 logements de la rue Apoutecourt n'étaient pas les seuls inclus dans le programme de copropriété. C'est aussi le cas des bâtiments 5196 et 5198 de la rue Kajisarvik sur le plateau, qui comportent 24 appartements de deux chambres à coucher, dont 11 sont actuellement disponibles. Cette fois, la vente est ouverte à tous les résidents du Nunavut et ne se limite pas seulement aux employés du gouvernement territorial. Selon Erin Devereaux, la SHN a encouragé les résidents de la rue Apoutecourt à faire une offre d'achat. Mosha Cote affirme toutefois que la taille de ses logements ne convient pas à sa famille de 5 personnes. Il affirme par ailleurs que le marché de l'immobilier est désormais hors de sa portée. Citation : J'aurai bientôt 50 ans et le programme de copropriété était ma seule voie pour accéder à la propriété. Fin de citation, déplore-t-il. C'était « Promesses brisées pour des résidents d'Iqaluit qui espéraient devenir propriétaires ». Un texte de Radio-Canada, avec les informations de Samuel Watt, paru le 18 septembre 2024 sur Ici Grand Nord.
Payer les gens avant une catastrophe climatique, l'idée fait son chemin. Un texte de Chloé Faran de l'agence France Presse paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir. Loin de la bureaucratie de la finance internationale, une solution a priori toute simple fait son chemin pour protéger les populations vulnérables aux aléas climatiques. Leur virer un peu d'argent via leur téléphone portable, très vite, voire avant que le désastre ne frappe. Face à une crue, un ouragan ou un méga-feu, plus vous recevez l'argent rapidement, mieux c'est, résume Ranil Dissanayake, chercheur au Centre for Global Development. Mieux encore, il faudrait le verser avant la catastrophe. Les bénéficiaires peuvent alors préparer leur logement, stocker de la nourriture ou rejoindre des secteurs abrités, explique-t-il à l'AFP. Imaginez la différence que cela peut faire pour des travailleurs manuels en Inde du Nord qui, s'ils reçoivent une aide en amont d'une canicule à 50 degrés centigrades, n'auront pas forcément à travailler dans ces conditions. Au moment critique, ce type d'intervention préventive déployée depuis quelques années par les organisations humanitaires dans d'autres contextes est préconisée par des experts comme l'économiste française Esther Duflot, mais encore rare pour des événements climatiques qui s'annoncent de plus en plus intenses et fréquents. Des versements directs par téléphone mobile ou via une carte de retrait ont toutefois déjà été testés. L'ONU a mené une douzaine d'actions pilotes en Éthiopie et en Somalie frappées par la sécheresse ou au Bangladesh où, en 2020, plus de 23 000 foyers ont pu recevoir 53 $ une semaine avant le pic d'une gigantesque crue. Il y a un consensus pour dire que cela marche et que fournir de l'argent liquide plutôt a un bénéfice social accru en apportant l'aide à un moment critique, souligne Ashley Popel, chercheuse au Centre d'études des économies africaines de l'Université d'Oxford, qui a étudié le cas du Bangladesh. Selon cette étude, les bénéficiaires ont pu faire des provisions, mais aussi mettre à l'abri leurs animaux et donc leurs moyens de subsistance. Pour les foyers n'ayant pu en profiter, le risque de rester une journée sans manger a été accru de 52%. Quand un désastre survient, Beaucoup de banques multilatérales de développement songent à la manière d'aider rapidement les gouvernements. Mais il n'y a pas grand-chose sur la façon d'amener rapidement les fonds aux personnes les plus affectées, observe Mme Popple. 100 $ pour éviter le pire. Depuis 2020, le programme américain Give Directly est intervenu au Bangladesh, en République démocratique du Congo ou encore au Malawi, en virant, par moyens mobiles, de l'argent à des populations confrontées à des crises, conflits, déplacements. Alors que le Nigeria redoute encore des inondations, 20 000 foyers ont été préenregistrés, dont les plus exposés recevront 320 $ au moins 3 jours avant le pic de la crue. Pour les identifier, l'ONG, en partenariat avec Google, s'appuie sur un mélange d'images satellitaires, cartographie des inondations par intelligence artificielle, données administratives, enquête de terrain. Au Mozambique, plus de 7500 familles ont reçu par son intermédiaire 225 $ 3 jours avant une crue en 2022. Au Bangladesh, 15 000 personnes ont reçu 100 $ en 2024 avant une crue de la rivière Jamuna. Pour autant, ce type d'action n'est pas sans limites ni défis. Il faut des prévisions suffisamment précises et fines, idéalement à l'échelle d'un village ou une communauté, explique Mme Popple, évoquant des travaux de Google en ce sens sur les crues. Certaines intempéries, notamment les ouragans, sont aussi plus difficiles à prévoir, avec des directions changeantes. Nous sommes capables de prévoir certains désastres en certains endroits, mais pour d'autres, il faut plus d'investissements, notamment dans des stations météorologiques, développe M. Dissanayake. Il évoque aussi la nécessaire levée de barrières politiques. Nous devons reconnaître explicitement que cela fait partie des outils de réponse au changement climatique et le financer de manière efficace, souligne le chercheur. Même si cela ne dispense pas de financer des infrastructures, transports, digues, l'aide individuelle anticipée peut être une bonne part de la solution. Mais elle peut rarement tout faire. C'était « Payer les gens avant une catastrophe climatique, l'idée fait son chemin ». Un texte de Chloé Farran de l'agence France-Presse paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir.